les amis, c'est dans la rue que ça se passe pour cette spéciale révolte contre la retraite à points. Janvier 2020, le mouvement social lancé fin 2019 n'a pas désamorcé. Et aujourd'hui, vous allez entendre ce que les manifestants ont à dire, entendre ce que vous n'entendrez pas chez les collabos de France Intox et autres médias dominants pourris qui essaient de faire passer les grévistes pour des privilégiés preneurs d'otages. Vous allez passer une heure dans la rue avec des enseignants, des postiers, des cheminots, des infirmiers, fonctionnaires, étudiants, citoyens lambda qui ont le courage de lutter pour tout le monde contre la casse de la société. C'est une radio manif joyeusement combative qui vous attend, joyeuse grâce à une fanfare de jazz improvisée qui va nous accompagner pendant toute cette émission. Marching Brass Band qui s'initie le retour des intermittents du spectacle dans la rue après des années d'absence, comme quoi il y aurait encore des artistes qui se souviendraient qu'ils se doivent d'être solidaires avec leur public. Merci à ces super jazzmen en lutte qui vont dynamiser toute cette manif. À la fin de l'émission, l'un de ces icônes vous rappellera que cette musique née entre Champs de Coton et Nouvelle-Orléans a elle aussi une puissante et profonde histoire politique et sociale. Mais pour l'heure, c'est Radio Manif. On va causer et hurler dans le vacarme de cette juste rébellion. Salut François.
Salut.
Ton panneau sur lequel il y a écrit « Halte aux terroristes », mouvement social contre les terroristes.
Par rapport à ce qui s'est passé à Paris, on est quand même monté d'un cran dans la répression et un système de terrorisation des foules. Et puis finalement une remise clairement en cause du droit de manifester. On a quand même une police qui est complètement en roue libre. La dernière médiation du gouvernement... ça reste son bras armé, mais qu'il a plus l'air de trop contrôler. Donc on est bien dans le terrorisme d'État et le terrorisme, parce qu'il s'agit bien quand même d'imposer la terreur pour imposer le règne des plus riches.
À noter d'ailleurs que cette répression des gens, et notamment du mouvement syndical, a commencé sous des gens qui se prétendaient socialistes, hein. Pendant les manifestations contre la loi El Khomri, donc sous le gouvernement PS de François Hollande, des coups de matraque, des coups de flashball, des syndicalistes que la police allait voir le matin pour leur interdire de manifester, on a bien basculé dans quelque chose de dictatorial.
Avec les lois antiterroristes, le moment où il y a la bascule qui m'a vraiment frappé, c'est pour la COP21, les manifs contre la COP21. On a assigné à résidence des maraîchers, des agriculteurs, des militants écologistes. Et là, on constate en plein l'instrumentalisation de l'antiterrorisme pour la criminalisation du mouvement social. Je crois qu'avec le gouvernement Macron, on est passé à un stade supérieur. On a bien peur maintenant d'aller en manif et d'en revenir entier, particulièrement à Paris. Et le slogan « qui nous protège de la police » est de plus en plus d'actualité. On a vraiment un revirement à l'entrée des municipales, de Castaner et de Macron qui font mine de faire une reprise en main de leur police. Mais quand on a lâché les chiens, c'est quand même très très compliqué de rappeler la meute. Et finalement, après un an de gilets jaunes, après un mouvement social plus long que 95, on a une sourdité totale, un autisme total. Le fossé entre les élites et la population n'a jamais été aussi grand. Le macronisme aura creusé ce gouffre.
Le propre de la bourgeoisie, c'est d'avoir la trouille, c'est un état naturel chez eux. Ils ont peur de perdre ce qu'ils possèdent. Là, c'est très généreusement finalement que les riches partagent leur trouille
avec nous.
Je crois qu'ils ont vraiment eu peur courant décembre de l'année dernière. Depuis, ils restent très crispés sur cette rue qu'ils ne pourraient pas contrôler.
Le cran au-dessus de la peur chez la bourgeoisie, c'est la terreur. Hein. Et on sait bien, là, on en rigole un peu, mais ces gens sont capables de faire venir les nazis au pouvoir. Hein. Ils l'ont déjà fait, hein, d'ailleurs.
Après ce mouvement social et après ce quinquennat, qu'est-ce qu'on peut avoir à part le Front National? Et c'est vrai que c'est quand même flippant. Je suis allé voter au second tour pour Macron parce que j'avais peur du Front National. Là, avec un État et une police dans ces conditions-là, on voit un Front National au pouvoir.
On l'a déjà partiellement au pouvoir, le Front National, hein, à part qu'il a un sourire Colgate et une gueule de VRP.
On est tout à fait, en fait, rentré dans le dérapage fasciste.
T'as pas mal au cul d'avoir voté Macron?
Ah si, j'ai mal au cul, ouais. Le barrage républicain qui lui a permis de passer, ça va pas fonctionner la prochaine fois. Pourtant, tout son calcul politique, c'est d'aller chercher un deuxième tour Macron-Le Pen. Enfin, moi, je trouve ça d'une irresponsabilité. J'en veux énormément aux députés et aux élus macronistes.
Puis à tous les collabos hein, qui se croient de gauche et qui ont voté fasciste pour, soi-disant, éviter le fascisme.
Donc effectivement, il nous reste la rue, l'auto-organisation.
T'es pas en train d'arpenter le pavé pour une simple question de retraite, quoi. On vient de parler de toute autre chose, de démocratie, de liberté.
Mais je crois pas qu'on est sur une mobilisation très corporatiste ou pour défendre des privilèges. On est vraiment sur un ras-le-bol par rapport à un autisme du pouvoir, une arrogance d'une clique extrêmement minoritaire. Moi, je remets ça dans le contexte d'une année de mouvement des Gilets jaunes qui nous a quand même, à mon avis, appris beaucoup sur les possibilités de repolitisation des classes populaires et aussi sur la réalité de ce qu'était le fait d'exercer le droit de manifester. Moi, j'allais dans la rue avant, mais je crois que beaucoup de gens y sont allés à partir de ce moment-là et on a découvert toute autre chose, en fait. Est-ce que tu disais la peur des bourgeois
Tu fais quoi comme métier?
Contractuel dans la recherche. Je fais des CDD pour l'université de Tours ou en sous-traitance. Et je travaille sur les politiques locales face au changement climatique. Donc c'est des recherches en aménagement du territoire, environnement, politique publique, géographie. Et je ne suis pas non plus rassuré par rapport à l'avenir climatique et l'action publique. D'attendre la catastrophe pour mieux gérer le désastre avec les intérêts privés. Tout ça participe d'un avenir quand même relativement noir que nous préparent nos responsables politiques.
Nos irresponsables politiques.
On voit bien une plus grande conscience des gens au quotidien qui sont beaucoup plus ouverts à la décroissance, à moins travailler, à moins consommer. Le fanatisme, il est vraiment dans les classes dirigeantes, quoi.
Non, mais rassure-toi, l'Europe Écologie Les Verts et leur écologie compatible avec l'économie de marché vont nous sauver.
Je crois qu'il y a vraiment un risque que les Verts glissent au ni droite ni gauche. J'espère qu'ils vont exploser.
Ni gauche, quoi.
C'est ça. Pourtant, je crois qu'ils ont un vrai boulevard pour faire quelque chose.
Si, leurs gamins vont pouvoir manger vegan à la cantine.
Mais quand moi j'ai fait les manifs de gilets jaunes à Paris, j'ai été extrêmement surpris du décalage sociologique entre les jeunes parisiens qui regardaient vraiment les gilets jaunes comme de la merde. Quand je parlais du fossé avec les élites politiques, il y a aussi un fossé avec certaines classes sociales urbaines. En gros, les électeurs macronistes du premier tour.
Puis tous les socialos déçus du PS qui se sont ripollinés en vert et qui votent à droite sans vraiment l'avouer, quoi.
Mais ils sont pas très très nombreux, je pense. Idéologiquement, culturellement, ils pèsent. Tous les gens que j'ai vus qui avaient des discours très hostiles envers les gilets jaunes avaient des revenus au-dessus de 2 500-3 000 euros.
Salut Christophe.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais comme métier?
Je suis professeur de maths.
Comment ça se fait que tu es dans la rue aujourd'hui à prendre les élèves et leurs parents en otage, à ne pas assurer la garderie?
Je les prends pas en otage parce que justement je suis pas devant eux, mais pourquoi je suis dans la rue? Je suis dans la rue parce que cette sublime réforme des retraites est quelque chose auquel je peux pas me résoudre. Parce que ça n'est pas juste une réforme comptable ou une réforme financière, c'est une modification de la manière d'être ensemble. et c'est la énième qui nous arrive sur le coin de la figure. Dans l'éducation nationale, on en a subi déjà quelques-unes. Ça ne sera pas probablement la dernière parce que notre statut est en cause. On sait très bien que les enseignants sont considérés par le gouvernement ou au moins par le pouvoir comme des gens qui ne sont pas des bons serviteurs. Quand on lit les rapports de l'OCDE, par exemple, sur l'éducation, les objectifs sont clairement formulés, en particulier le fait que l'éducation est peut-être le dernier bastion public qui est encore privatisable. Je n'arrive pas à me résoudre à laisser passer ça en regardant simplement.
Marchandisation de l'éducation.
La marchandisation de l'éducation, de la retraite, de la santé, de tout ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble sans être des bêtes économiques qui vont se taper dessus pour s'arracher le bout de viande de la bouche l'un de l'autre. Oui. Ça va au-delà de la question de retraite. Les calculs ont été faits. En plus, on est en relation avec la CNAV qui a aussi fait ses calculs de son côté. La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est un peu les spécialistes de la retraite. Et lorsqu'on lit les simulations qui ont été faites, eux-mêmes sont affolés de ce qui les attend.
Dans la manif et ça fait toujours du baume au cœur. Salut Hervé.
Salut.
Tu fais quoi comme métier toi?
Moi je suis prof de maths.
Pourquoi t'es dans la rue aujourd'hui et pourquoi t'y étais les jours précédents?
Je dirais que la retraite c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le modèle de société qu'on nous promet qui est à l'américaine amplifié qui me plaît pas. Les gilets jaunes, c'est déjà un an qui gueule, ils s'en foutent, là tout le monde s'y met. C'est peut-être le moment, on a peut-être une chance de changer de modèle par rapport à ce qu'on veut nous faire qui est totalement inégalitaire, injuste, scandaleux.
On a un pote en commun, hein, divorcé, 20 ans de boutique, 2200 euros par mois, 800 euros de loyer, deux gamines. Il me dit, je m'en sors plus, quoi. Et je lui ai dit, mais mec, tu sais ce que t'es? T'es un gilet jaune de l'éducation nationale.
C'est le principe, hein, on est vers la prolétarisation de tous les métiers, disparition de la classe moyenne. On faisait partie de la classe moyenne intellectuelle et on va s'en prendre plein la gueule. On n'est pas augmenté depuis, le point d'indice est gelé depuis 20 ans. On a perdu à peu près, par rapport aux gens d'il y a 20 ans, on a perdu à peu près 20% de salaire. Forcément, ça se ressent. Les profs, maintenant, on va en région parisienne, avec 2000 balles, tu te loges pas. C'est à 700 balles, t'as rien, t'as une chambre de bonne, mais encore. Donc, il n'y a pas que les profs, c'est tout le monde qui est dans ce cas-là. On est tous logés à la même enseigne.
Et des conditions de travail qui ne s'améliorent pas, en plus.
Ah, on va s'en prendre plein la gueule derrière. Hein. Nos statuts vont sauter cet été, ça va être leur revalorisation à 30 balles, et puis ça va continuer comme ça indéfiniment. Il faut faire des économies partout pour filer au CICE, à Arnaud qui gagne 25 milliards de plus dans son année.
L'oligarchie française a aussi des guerres à financer contre des gens qui nous ont rien fait.
Évidemment, faut du pétrole, faut vendre du matos, bah, tout d'assaut, faut qu'ils vivent aussi. Hein.
Donc la patate, t'as l'intention de continuer longtemps comme ça?
Oui, hein, jusqu'à ce qu'on se fasse taper sur la gueule. Ça va pas tarder. Il y a de plus en plus de flics, je trouve. Donc à mon avis, ça va se finir comme les gilets jaunes. Commence à dire déjà qu'il faut savoir finir une grève. Il n'y a pas de raison de la finir pour l'instant. Quand ils vont voir que ça marche pas, parce que moi je pensais qu'on allait être 50 pelés. Et il y a encore plus de monde que mardi. Peu importe ce qu'on raconte à la télé, il y a de plus en plus de monde, quoi.
Salut Paul.
Salut.
Tu fais quoi comme métier?
Je suis enseignant en collège, en SECPA, et je m'occupe d'élèves qui sont en difficulté scolaire durable, voilà.
T'en es à combien de jours de grève là?
Une douzaine de jours de grève, depuis voilà, avec des périodes en reconduction, d'autres pas.
Une douzaine de jours de grève en moins sur ta fiche de paye?
On ne sait pas encore trop si voilà, à quelle sauce on va être mangé par rapport à ça, puisqu'il y a des histoires de week-end, etc. On ne sait pas trop, mais bon, en gros, on est à peu près à ça, avec une reprise à la rentrée. Le lundi 6, avec sur cette journée un certain nombre de grévistes qui ont décidé de dire que bah, pas de retrait, pas de rentrée, et on réamorce la pompe, on va voir les collègues, on y allait avec des cheminots dans les établissements, etc. Parce que ça parle aussi aux collègues, un petit peu des gens de l'extérieur, etc. Et puis nous on est mobilisés certes sur des temps forts, etc. Mais y a un certain nombre d'entre nous sont en grève reconductible, on franchit ce pas là aussi. Mais le secteur des transports, que ce soit les cheminots ou les traminots, je sais qu'on est au 40e jour de grève, quoi. Donc ça commence à causer aussi, quoi. Voilà, les conséquences de la grève, de toute façon, les jours, ils vont être retirés après. On ne sait pas exactement quand. Ça va peut-être étaler ou pas, j'en sais rien. Mais,
Je pose lourdement la question parce qu'il y a encore cette propagande qui avait imprimé dans la tête des gens que la grève, c'est gratos pour les fonctionnaires.
Non, je te confirme, on nous enlève bien nos jours de grève. En gros, moi, pour moi, chaque jour de grève, c'est 100 balles en moins. Donc voilà.
Toi, tu es enseignant en SECPA. L'ancêtre de la SECPA, c'est ce qu'on appelait pour les vieux la CPPN, du temps où on était collégien.
Enfin, ouais, voilà, c'est toutes les classes d'adaptation. Ça s'est appelé de différentes façons. On est face à un public qui est souvent dans une grande précarité aussi, et qui n'a pas forcément eu tout l'environnement favorable pour les apprentissages. Donc c'est eux aussi qui sont en première ligne. Et voilà, donc nous on a affaire à un public qui est déjà dans cette précarité. Et aujourd'hui on se bat. Si je suis pas dans ma classe, je me bats aussi contre une précarité qui a ces conséquences-là.
J'ai rencontré récemment en manif un de tes collègues qui était complètement catastrophé parce qu'il avait cru comprendre que les SECPA seraient supprimés par le gouvernement à la prochaine rentrée scolaire et que ces élèves qui ont besoin de prestations, d'attention particulière seraient reversées dans les filières générales du collège qui volent déjà pas bien haut, faut bien le dire.
Ouais, alors ce qui se passe avec les SECPA, c'est qu'on subit une logique du moindre coût. Il y a bien des postes qui disparaissent un peu plus chaque année dans les établissements, elles vont pas fermer comme ça du jour au lendemain. En revanche, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on a un transfert dans l'enseignement spécialisé d'un public, d'une structure vers un autre. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, on a fermé les IME et sous prétexte d'inclusion scolaire, on a des élèves qui sont en ULIS. Des élèves qui étaient en ULIS maintenant sont dans les SECPA et les élèves qui devaient être dans les SECPA sont dans les classes ordinaires. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on prend moins bien en charge les gamins parce que les structures ne sont pas adaptées et que les conditions d'enseignement se dégradent, y compris dans le primaire.
Est-ce que les élèves et leurs parents comprennent quand tu fais grève?
C'est difficile au collège, c'est vrai que le contact avec les parents, c'est pas comme à la sortie de l'école, on l'a moins. Je pense que les élèves, face au mouvement actuel, s'interrogent beaucoup plus sur la durabilité de ce mouvement et sur pourquoi. Parce que moi, je suis retourné quelques jours, la première semaine de la reprise au collège, et certains élèves m'ont dit spontanément, mais lundi, vous n'étiez pas absent, vous étiez gréviste. J'aurais dit, oui, évidemment.
Il faut la différence entre les deux, donc voilà. C'est bien.
Non, mais déjà, c'est bien. Et puis, ça les a interrogés. Et puis, ils m'ont dit, mais pour le reste de la semaine, j'aurais dit, regardez la presse, renseignez-vous, informez-vous. Moi, je peux pas leur dire spontanément, on a un peu un devoir de réserve, etc. Donc, j'aurais dit, renseignez-vous. Ce qu'on construit aussi dans ce mouvement, c'est... C'est un décloisonnement entre les établissements, entre les catégories de personnel, entre les secteurs aussi, et que ça on en avait besoin, ça nous fait du bien aussi, et c'est ce qui nous fait, ça sert de moteur aussi d'avoir cette énergie avec les cheminots, avec des actions en commun, une solidarité dans un monde qui s'individualise, ces solidarités-là, on les vit au quotidien dans la lutte, quoi.
Dans cette manif, un visage connu puisqu'on l'a rencontré au local syndical de Sud Solidaire Cheminot. Salut Nico.
Salut.
T'es conducteur de train de fret, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Petite mine quand même, les yeux tirés, mais toujours ardent à battre le pavé.
Ah ouais, la petite mine là, au bout de 40 jours quand même. Bon, même s'il y a eu les congés, on va pas chialer non plus, on a heureusement eu des congés pour se remettre un peu. Je pense que vraiment au chemin de fer, ça a dû aider la période. Et oui, on est toujours là. On aurait aimé, au bout de 40 jours, avoir une interpro plus forte, quoi, être rejoint par plus de secteurs. On voit qu'il y a eu un petit regain chez les profs, ça nous a fait plaisir. On a fait pas mal d'AG avec eux, on a fait des actions, il y en a encore d'autres à venir avec eux. On aimerait bien qu'il y ait d'autres métiers et que les gens peut-être du privé se sentent un petit peu plus concernés, parce qu'ils le sont.
Étonnamment, les jeunes ne sont pas beaucoup là non plus. Enfin, il y en a qui sont en partiel et d'autres déjà dans le bac.
Ça, c'est vrai, l'apathie des jeunes sur ce sujet-là, elle est un peu flippante. Ils nous ont fait plaisir avec les manifs pour la sauvegarde de notre environnement, quoi, pour limiter l'impact sur le climat, où ils ont été très présents, les jeunes. Ils ont été même à l'initiative, finalement. Bon, je pense qu'il ne faut pas opposer les luttes. Hein. Je pense que c'est un tout, c'est lié, quoi.
Tu penses que les gamins ou les jeunes se sont résignés au fait que, de toute façon, la retraite, ils l'auraient dans l'os? Vu que moi, je me souviens, je l'ai appris au collège, quand j'étais en 5e. Hein, la prof nous avait sorti une pyramide des âges en disant « Vous voyez, les enfants, il y a trop d'yeux, bah, c'est jeune, gna, 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 donc vous n'aurez pas de retraite.
Ouais. »
Une analyse, entre guillemets, qu'on retrouve aussi chez des jeunes cheminots, en disant « Bon, ça va, je peux encore me lever la nuit à 4h du matin pour aller me faire exploiter.
» Chez les jeunes cheminots, en discutant dans les AG avec les copains profs, bizarrement aussi, ce sont les profs plus jeunes qu'on a le plus de mal à mobiliser. On te répond que moi, de toute façon, on m'a toujours expliqué que j'aurais pas de retraite.
Oui, on l'apprend à l'école. Moi, je l'ai appris à l'école.
Certaines personnes semblent avoir intégré. Alors, c'est quand même flippant, quoi. Si t'arrives même pas à te projeter jusque-là, c'est comment tu peux construire un avenir sans réussir à le conceptualiser et à se dire que comment je vais vivre mon avenir, comment je vais venir vivre tous mes âges, quoi, de ma vie, quoi. Donc c'est, ouais.
Peut-être qu'il y aura une prise de conscience quand le gouvernement Macron s'attaquera à la sécurité sociale, hein, ce qui est, à mon avis, dans les tuyaux. Si les jeunes ne sont pas encore vieux, parfois, par contre, ça leur arrive d'être malades.
Mais tu sais, ça va faire quand même quelques luttes, là, où on se dit... Peut-être que les gens vont ouvrir les yeux.
Je pense que c'est le cas malgré tout, parce que tu vois bien dans ces manifestations, on voit des gens qu'on n'y voyait pas avant.
C'est sûr. Après, moi, il y a un truc aussi là qui me gêne un peu là dans ce mouvement, les caisses de grève, de soutien. Je crache pas dans la soupe, je suis bien content qu'elles existent. Et, parce que parfois, on a vu hein, des tribunes dans les journaux de hauts cadres et tout qui disent à travers de longues tribunes soutenir le mouvement, etc. Et donner dans les caisses de grève. Mais j'ai envie de leur dire, mais mettez-vous en grève, gardez vos sous. Et faites la grève avec, quoi, parce que ça sera plus utile. Parce que là, on ne peut pas continuer une grève par procuration, c'est pas possible. Je veux dire, ça ne peut pas reposer toujours sur les mêmes. On voit bien dans les chiffres de grévistes que là, en ce moment, il y a une petite baisse. Je pense que c'est le côté financier qui joue, et aussi le côté, comme je te disais tout à l'heure, où on espérait, et on espère toujours, puisqu'on est là, avoir un regain de soutien, mais dans la grève, des autres secteurs d'activité, quoi. On voit bien, visiblement, l'opinion majoritairement a bien senti l'entourloupe. Il faudrait que ça se concrétise par... Si on veut gagner, il faut être massif, hein, bon, une bonne fois pour toutes. On peut pas durer comme ça pendant des semaines, on l'a vu. On l'a vu, hein, les capitalistes, ils sont là, ils se marrent, et ils font semblant de nous écouter, ils nous sortent leurs éléments de langage et patati, des soi-disant débats. J'ai oublié le nom, tu sais, on a désigné des citoyens... Un groupe de réflexion sur le climat. Et ça commence par quoi? Par une messe de Saint Macron qui leur dit en gros ce qu'on va faire. La pseudo-discussion, concertation, je ne sais pas comment appeler ça. C'est de l'enfumage, quoi, tout simplement.
Toi, t'as combien de jours de grève au compteur depuis le 5 décembre?
Bah moi, je suis en grève depuis le 5 décembre. Je dois être à 15 ou 16 jours effectifs, c'est-à-dire qu'ils vont m'être retiré, puisque j'ai eu la chance d'avoir des vacances en fin d'année. Donc moi, j'avais 15 jours en décembre. Je dois être à 15 jours qui vont être enlevés sur ma paye, peut-être un peu plus. Fin décembre, ils n'ont rien enlevé. En tout cas, au fret, ils n'ont rien enlevé. Il y a d'autres secteurs de la SNCF où ils ont enlevé. Donc je pense que ça va être enlevé là fin janvier, et c'est sûr que bon bah pour beaucoup ça va calmer des ardeurs. Hein, ça.
J'espère que t'as une chérie qui bosse et qui est pas gréviste.
Oui, moi j'ai la chance, ma femme elle travaille pas, elle est en congé parental, mais elle a un revenu, donc j'ai cette chance là. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. J'ai des collègues et j'imagine même dans d'autres métiers, tout le monde ne travaille pas à la maison. Il y en a, oui parfois il y en a les deux qui sont en grève. Enfin bon. Après on peut peut-être trouver des alternatives. Un qui se met en grève et pas l'autre, je sais pas. Après, ça, c'est à chacun de s'organiser.
On passe devant l'université François Rabelais de Tours. Il y avait une grande bannière faculté en grève contre la réforme, quand même. Hein.
Depuis hier, on y était avec
les accès qui semblent apparemment bloqués, quand même.
Ouais. Ça tient pour l'instant. Faut les soutenir. D'ailleurs, on a voté, nous, en AG Cheminot, le soutien ce matin. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient avoir un soutien logistique, utiliser les outils de nos syndicats, déjà. Les imprimantes et compagnie, quoi. Et puis, ils avaient besoin de matériel divers comme des chaînes, de nourriture aussi. Donc, on a voté ça ce matin en AG. pour les soutenir, quoi, c'est normal. Ils s'y mettent, enfin, j'ai envie de dire.
Tous les étudiants roulent pas sur l'or, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui s'est immolé, c'est pas pour rien non plus. Et ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a des gamines qui tapinent pour se payer leurs études, d'autres qui se font exploiter et prostituer chez Uber ou McDonald's.
C'est peut-être ça aussi, leurs conditions, on va dire, de vie, qui parfois on te laisse pas trop relever le temps de relever la tête et de te lancer dans un mouvement. Et de voilà. Quand ton seul objectif, c'est à 24 heures, savoir si tu vas avoir de quoi bouffer, de quoi te loger. Enfin, là, on parle des étudiants, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Bon, bah oui, c'est sûr que ça laisse pas beaucoup de temps à la réflexion et à te dire ah « ouais, je vais me prendre en main pour lutter, quoi ». Je peux comprendre aussi, c'est humain, hein, forcément.
Le déclencheur, c'est cette énième coup de boutoir contre le système des retraites. Mais c'est pas le premier, hein, puisque ça a commencé dès 95. Pendant ce temps-là, eh ben, y a le plan SNCF 2020 qui est passé. Là, ça y est, la SNCF, société anonyme, hein, ça y est, c'est acté, ça n'appartient plus au peuple.
Bah oui, donc depuis le 1er janvier, effectivement, il y a plusieurs SA qui ont été créés. Nous, le FRED, c'est une SAS. Clairement, c'est un vol. On vole le contribuable. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, comme ça a déjà été le cas avec bien d'autres services publics. D'ailleurs, on récompense à l'heure actuelle les personnes, hein, parce que l'autre, là, Civelli ou Crivelli, je ne sais plus comment il s'appelle, patron de BlackRock actuellement, ah oui, BlackRock France, qui est, en fait a été un des liquidateurs de GDF, hein, qui a contribué à sa privatisation. Et on le récompense maintenant. Alors on nous dit non, c'est pas parce qu'il est chez BlackRock. Peut-être qu'il est récompensé pour ce qu'il a fait avant. Mais bon, bref. Donc c'est ce qui se produit à la SNCF actuellement. Ce détournement d'argent public, pour moi, c'est ça. Et pour les salariés de la SNCF, ça implique que bah, dans pas longtemps, à mon avis, on va remettre en cause notre réglementation du travail, clairement. Et ça implique que depuis le 1er janvier, toutes les personnes qui vont être embauchées maintenant au chemin de fer, bah, ça sera des contractuels comme moi, au régime général, qui ne cotiseront plus à la caisse des cheminots, à la CPR, etc. Donc c'est tout un statut protecteur du travailleur qui disparaît, quoi. Il va de fait s'éteindre, puisque une fois que tu n'auras plus que des cheminots contractuels, bon, bah, le statut disparaîtra de lui-même, quoi. Vraiment, les auditeurs, là, comptez pas toujours sur les autres. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore dans la lutte concrètement. Il ne faut pas toujours compter sur les autres. On est bien content quand une lutte est gagnée et qu'on obtient... un conquis comme on a à l'heure actuelle. Il nous en reste quand même quelques-uns, heureusement. Faisons tout pour les préserver et les améliorer. Les cheminots, certes, on a, et la RATP, qui ont été des étincelles là-dedans, mais maintenant, il faut suivre, quoi. Il faut se bouger, c'est maintenant là qu'il faut... avant que tout ça ne s'éteigne et que... Parce que franchement, ce qu'on nous propose, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins une forme d'esclavagisme, quoi. Quand on te dit, mais comme tu vieillis plus vieux, tu vas devoir travailler plus longtemps. C'est pas du progrès social pour moi, ça. T'es né pour bosser et crever au travail, quoi. En gros, c'est ça. Je partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'on produit aujourd'hui suffisamment de richesses pour pouvoir justement faire des plus grands progrès sociaux que ceux qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Bon, malheureusement, on voit bien, on est verrouillé par le système capitaliste, hein, qui se défend par tous les moyens, donc en utilisant la politique. Hein, en mettant ses serviteurs au pouvoir et puis après en utilisant ses outils, hein, les médias, les masses médias, etc. Voilà, il faut se lever, il ne faut pas compter sur ceux qui sont déjà debout et il faut se lever avec eux, c'est tout ce que je voulais dire.
Ouais, et puis ça commence par un travail sur les mots. Toi, tu dis pas acquis sociaux, parce qu'on voit bien que justement, ils sont en train de tout détruire, donc il n'y a rien d'acquis. Tu parles bien de conquis ou de conquête sociale.
Puis quand on lutte et quand on se prend le temps un peu d'étudier un peu l'histoire des luttes, c'est intéressant, hein, j'invite le plus grand nombre à le faire, et bah, on se voit bien que c'est jamais été des cadeaux qui nous ont été faits aux travailleurs. C'est toujours parce qu'on a réclamé, on s'est battu, qu'on a obtenu quelque chose. Donc oui, c'est un conquis, oui.
C'est à craindre qu'il faudra peut-être tout perdre pour que les gens se rendent compte que c'était précieux quand ils auront plus. Hein, voilà. Le jour où on te refusera l'accès à l'hôpital et qu'on te demandera ta carte bleue plutôt que ta carte vitale, ouais. C'est peut-être là que les gens comprendront des trucs.
J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Moi, tu vois, j'ai quand même 3 enfants, j'ai une famille, des amis, pareil. J'ai pas envie qu'on en arrive là, quoi. Mais bon, comme tu dis, s'il faut en arriver là, ce sera bien triste quand même. On sera tombé bien bas et oui, peut-être qu'on pourra peut-être pas descendre plus bas et qu'on sera obligé de se relever à ce moment-là. Mais bon, moi, j'ai espoir quand même. De toute façon, si je suis là, c'est que j'y crois, qu'on va pas en arriver là et qu'on va gagner avant ça quand même.
Salut Franck.
Salut tout le monde, salut tous les camarades grévistes, salut tous les travailleurs, travailleuses aussi bien sûr.
Ça fait un certain temps que je te vois au cul de la voiture Sud solidaire dans les manifs.
Ouais, ça fait un bail, ouais. Ça fait 20 ans que je suis à Sud, donc...
C'est quoi ton métier, toi, Franck ?
Moi, je travaille à La Poste, je suis agent de production à la plateforme industrielle Courrier. Centre de tri, donc. Hein,
Ah, centre de tri, mais c'est pas là qu'on met les fortes têtes.
Avant, oui, il y en avait, là, il y en a de moins en moins, là, parce que le taux de gréviste n'est pas terrible. Donc, on a eu quand même un petit 50% le 5 décembre, et puis un 25% début janvier. Mais là, les gens ils perdent 2-3 jours de grève, mais pas plus, quoi. Ils veulent pas ronger leur salaire, quoi.
Alors, est-ce que c'est la même bérésina que chez les cheminots, là ? Parce que moi, j'étais stupéfait d'apprendre que la SNCF, il y a plus de 1000 entreprises sous-traitantes. Est-ce qu'à La Poste, c'est la même chose ?
Exactement pareil dans tous les secteurs. Notamment La Poste, ils sont très forts aussi, c'est le groupe La Poste, avec, je dirais pas des milliers de sous-traitants, mais pas loin. Ça va de la distribution de colis, de la distribution de pubs, etc., etc., de la téléphonie, enfin il y a de tout maintenant, parce qu'ils font tout, des nouveaux services, donc évidemment ils veulent sous-traiter aussi au maximum. Si vous rencontrez le patron de La Poste, il va vous dire c'est le nouveau modèle social, c'est la sous-traitance. Il ne s'en cache même plus. Nouveau modèle social, c'est la sous-traitance. Le modèle social, vous vous rendez compte ? L'ubérisation, etc. Enfin, voilà, tout ce qui nous conduit à l'esclavage, quoi, en fait, moderne.
La Poste, elle a quoi encore la distribution du courrier ? Enfin, ce qui est le moins rentable, j'imagine.
Oui, après, c'est un service public, moins rentable, ok, mais c'est un service public. Si La Poste avait mis ses billes depuis le début sur le colis et on n'aurait pas trop ouvert à la concurrence, on serait quand même sous le colis, c'est exponentiellement, c'est énorme. Hein, quand on voit Alibaba, Amazon, etc., qui se développent, mais en fait, nous, on est en concurrence d'Amazon, mais aussi on est les larbins d'Amazon, en fait. C'est Amazon qui décide quel quartier, quel code postal ils vont d'un seul coup distribuer. Pour l'instant, dans beaucoup d'endroits, c'est pas Amazon qui distribue, c'est La Poste pour Amazon. Mais là, ils viennent d'employer un sous-traitant d'Amazon qui s'appelle Star Service, qui va distribuer tous les colis d'Amazon sur tout l'agglo. On est des valets, en fait, par rapport à Amazon. Ils font ce qu'ils veulent avec nous, quoi. Et ça, c'est un scandale.
On me surine que je suis plus un usager d'un service public, je suis devenu un client d'une entreprise dont je ne sais même plus très bien si elle est publique ou privée.
Bah, La Poste, puisqu'en fait, ils visent ce qu'ils appellent la silver economy, donc c'est les nouveaux services pour les vieux, veiller sur mes parents, etc., où il faut payer 200 ou 300 balles pour que le facteur passe 10 minutes, pas compter sur son centre de travail, chaque jour chez des vieux pour boire le café avec eux. Les retraités qui sont seuls, isolés, doivent payer pour que le facteur passe chez lui.
J'avais entendu un truc tout à fait scandaleux il y a déjà plusieurs années maintenant, où un de tes collègues facteurs qui distribue le courrier s'était fait taper sur les doigts par la hiérarchie parce que il prenait justement le temps de boire des cafés avec les personnes âgées dont souvent le passage du facteur c'est la seule personne qu'ils vont voir dans la journée, certains petits vieux, quoi. Et le collègue s'était fait taper sur la gueule par la direction.
Il y a eu beaucoup de conseils de discipline à La Poste sur le sujet. Soit t'as porté le pain à la petite vieille qui est dans la ferme là-bas, qui est loin, qui ne peut pas se déplacer, soit t'as bu le café pendant 10 minutes, un quart d'heure, t'as dépassé tes fonctions en fait. Donc boum, le couperet tombe, il faut que maintenant c'est payant. Si on apporte le pain, on paye, la personne paye en face. C'est plus du service public là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Enfin voilà,
Ça fait déjà quelques minutes qu'on discute, Franck. Bah, on a parlé de tout un tas de choses, mais finalement, t'as pas encore parlé de ta retraite. J'ai l'impression que c'est pas forcément le premier sujet qui te fait arpenter le pavé. Là,
c'est le fer de lance en ce moment. Le gouvernement essaie de nous faire passer un truc, mais il faut savoir que si ça passe ça, derrière, ils vont s'attaquer à la Sécu, ils vont s'attaquer aux congés payés, mais c'est sûr. Juste derrière, quoi, ils vont... Évidemment. Alors après, on défend aussi les services publics, on défend aussi de l'assurance chômage, on défend les salaires, on défend tout un tas de choses qu'il faut défendre. On a le réchauffement climatique, bien sûr. Autant de sujets qui sont très très importants, les problèmes qu'il y a à l'éducation nationale, dans les hôpitaux, ça concerne tous les secteurs. Nous, en souffrance, il n'y a que du courrier. Hein. Je parle des hôpitaux, c'est pas du courrier, c'est des gens qui sont en souffrance. Pareil, les trains, bon, c'est des voyageurs qui sont en souffrance, mais c'est pas des gens qui sont malades aussi, quoi. Et c'est encore pire, aller dans les hôpitaux, ce qui se passe, c'est scandaleux.
Tu l'as faite, toi, ta simulation de retraite de merde sur leur logiciel à la con, là ?
J'ai pas osé. Moi, je suis fonctionnaire de base, agent de production, derrière une machine, voilà. Moi, je vais perdre 300 euros de pension. Par mois, oui, pas par an. Oui. Nous, au syndicat Sud, on a fait des simulations sur tous les grades fonctionnaires. C'est 25-30% en moins. Alors, les salariés, je vous dis pas, c'est encore pire.
T'es censé bosser jusqu'à quel âge ?
64 ans.
64 ans. Au centre de tri, il faut envoyer du pâté quand même. Enfin, c'est vachement physique comme boulot. Il faut trimballer des trucs et tout. Tu te vois faire ce taf-là physiquement. Tu auras la force physique de faire ça, 64 piges.
Ah bah, derrière une machine à 60, plus de 60 balais. Enfin, moi, je suis au CHSCT, donc je connais bien le sujet. On a des maladies professionnelles et des troubles musculo-squelettiques en pagaille. Il faut savoir qu'il y a des jeunes de 25-30 ans qui rentrent. Deux ans après, ils n'ont plus d'épaule, ils n'ont plus de coude, ils n'ont plus de poignet. Il y en a qui sont obligés de se déclarer en maladie professionnelle parce qu'ils ne peuvent pas faire leur boulot, tellement c'est des gestes répétitifs, il y a une pression. Quand il y a des pressions managériales et temporelles, l'accroissement de trafic, etc., donc vraiment de la grosse pression, c'est là que les maladies se développent tout de suite. En fait. Et au bout de deux ans, on voit des gens, des jeunes, qui sont pétés, quoi, pétés les épaules, qui ne peuvent plus bosser, même à la poste, parce qu'ils ne peuvent plus être derrière la machine à mettre le courrier.
Voilà. Comment tu fais fonctionner un centre de tri avec des gens qui n'ont plus de bras ?
Bah, tu leur donnes plus de chocolat. on s'est battu en fait pour aussi au quotidien sur les rotations, sur les postes de travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de tâches différentes à faire. Donc le patron lui voudrait que une machine avec trois bonhommes pendant toute la nuit ou toute la journée, lui ça lui va bien. Comme ça il n'y a pas de pause le moins possible. Et nous ça marche pas comme ça, on tourne. Il y a un turnover évident à faire et obligatoire à faire. Donc c'est battu et on a un petit peu endigué le flot des TMS et des maladie professionnelle ces 4-5 dernières années, mais avant c'était disparant quoi. On explosait tous les chiffres privés, publics confondus des grosses entreprises. Au nombre de maladies professionnelles à la poste, on était les champions de France. Et je parle même pas des suicides, des vagues de suicides qu'il y a eu après celle de Orange et France Télécom. Là, il y en a eu pas mal aussi, hein, pas loin d'une centaine de suicides qu'il y a eu en plusieurs années à la poste.
Quand tu casses les gens, bah tu peux pas les faire bosser par définition.
Oui, c'est l'effet boule de neige. Puisqu'en fait, les gens qui ne peuvent plus faire certaines tâches, c'est d'autres qui se les tapent, mais ils s'en tapent plus que les autres. Et donc, en fait, ceux-là aussi deviennent malades.
Tu les casses encore plus vite, quoi. Voilà.
Oui, mais comme la Poste embauche beaucoup de... Bah, on sous-traite, on embauche des intérimaires, des CDD à fond. Bah, ça leur coûte cher quand même, parce que en fait, ils n'ont pas le savoir-faire postal. Il faut quand même, derrière une machine, derrière un casier de tri, c'est pas la même chose du tout que de charger bêtement un camion, par exemple. Il y a quand même une spécificité, une technicité à avoir. Il y a beaucoup de choses à connaître quand même quand on est postier. C'est pas si simple que ça comme métier.
Salut Thierry.
Salut Thierry Durand, donc Finances Publiques, CGT.
Thierry, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans cette émission, notamment autour de cette fameuse dette qui n'existe pas, hein, ça tu nous as déjà expliqué ça, cette dette qui est un choix politique parce que du pognon, il y en a à chier.
Bah là c'est marrant, juste devant la camionnette, ils passent, les gens sont disaient super, ils disaient la dette ça n'existe pas, c'est pour convaincre de vendre les usines aux Chinois, c'est à peu près ça. Ouais. Ben sinon, bah aujourd'hui, à nouveau, de Marjorie Roux, contre le projet Berger-Philippe, est-ce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant ?
Berger, c'est le gars de la CFDT, le syndicat jaune patronal qui sert à signer n'importe quoi avec le capital. Hein.
Et à nous faire croire que le projet a changé, alors qu'il n'y a rien qui a changé. La retraite à points, qui va faire perdre entre 25 et 30% de pension à partir de ceux qui partiront en 2027. Et puis, il y a la seule mesure qui a été modifiée, c'est qu'il y avait une période transitoire entre 2022 et 2027, où progressivement on devait aller vers les 64 ans d'âge réel de liquidation de la pension à taux plein. Bien, ça, c'est suspendu provisoirement, à condition que d'ici la fin avril, les partenaires sociaux, entre guillemets, trouvent une solution de financement. Philippe, il indique qu'il ne faut pas augmenter les... cotisations patronales parce qu'il ne faut pas nuire à la compétitivité, hein, et puis il ne faut pas baisser les pensions. Donc la seule solution éventuellement que les 10 partenaires sociaux pourraient trouver, c'est d'augmenter la GIA de la retraite, c'est tout. Donc soit on se fait baiser à 64, soit on se fait baiser à 63. C'est là, voilà la proposition, et voilà ce dont s'est félicité la CFDT par la voix de secrétaire général Laurent Berger.
Non mais c'est à ça qui sert, à faire capoter et à tuer les mouvements sociaux, mais là je pense que les gens ont compris quand même, hein.
Non seulement les gens, mais aussi on voit partout sur les réseaux sociaux des adhérents de base de la CFDT qui montrent leur carte déchirée. Et il y a la CFDT Cheminot qui est, on peut le dire depuis le début dans le mouvement et de façon très très correcte, qui a publié un communiqué désavouant la position de sa confédération.
Depuis décembre, t'en es à combien de jours de grève, toi ?
Bah, moi, j'en suis qu'à 10. La grève conductive n'a pas pris dans notre secteur.
Non, je pose lourdement la question un peu à tout le monde, parce qu'il y a ce truc qui est passé dans la tête des gens, hein, que pour les fonctionnaires, la grève, c'est gratuit. Hein.
Pour les fonctionnaires d'État, comme c'est mon cas, si je fais une heure de grève, je m'absente juste le matin pour aller à la manif, par exemple, eh ben non, c'est toute la journée qui est retenue. Pour les fonctionnaires d'État, une heure de grève égale une journée de retenue. Et si on fait grève le vendredi et le lundi, eh bien on retient aussi le samedi et dimanche. C'est au nom de la continuité du service public. On est censé être disponible pour être appelé, même s'il y a un gros problème, les jours où on ne travaille pas. Donc on part votre conséquence, par un arrêt qui date de 78 du Conseil d'État, un 30e le samedi, un 30e le dimanche, si on a été en grève le vendredi et le lundi. C'est arrivé à beaucoup d'enseignants en 2003, où il y a eu des payes à zéro au mois de juin. Je trouve que ce mouvement, c'est une chose un peu inédite à l'appel des syndicats, mais il a bien repris après les vacances dites de Noël. Je dis que c'est un peu inédit pour les syndicats, parce que ceux qui ont montré la voie en ne faisant aucune trêve dans l'action jamais, ni à Noël dernier, ni à celui-là, ni à vacances d'été, c'est les Gilets jaunes, qui, je pense, ont beaucoup impacté la façon dont les luttes se font aujourd'hui, et ont peut-être un petit peu mis la pression sur les syndicats, sur la façon d'être un peu plus réactifs, de faire un peu plus d'action. Les choses qui se passent dans le mouvement actuellement, des trucs des 7h du matin, hier il y avait l'occupation de la SDN, l'occupation nationale. On est ok, on a encore fait un petit tour de ville aujourd'hui, c'était bien ça. Promenade digestive, apéritif, vous êtes tellement vu l'heure qu'il est. Donc bah, un peu plus bouger, un peu plus interpeller. Nos ancêtres ne se faisaient pas chier eux. Hein. Ma fille veut rajouter quelque chose, il y a ma fille qui est là.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Sianne. Moi je veux dire que ma Macron, il a pas le droit déjà de faire d'abolition. Déjà, il a pas le droit aussi de priver les retraites. Parce que les retraites, c'est essentiel. Parce que si il y avait pas de retraite, bah, il y aurait personne qui pourrait se payer. Et ça se retrouverait, il y aura que les riches qui pourraient vivre. Et tous les autres qui seront pas riches, bah, ils pourraient pas vivre. Parce qu'ils auront pas de retraite.
Quel âge tu as, toi ?
9 ans.
Et toi, tu t'en fiches, la retraite, c'est dans très 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 longtemps.
Moi, je m'intéresse aussi des autres personnes que moi. Moi, je m'intéresse aux gens. Je m'en fous que ça soit dans longtemps. Moi, je m'en fous que ça soit pour moi aussi. Moi, je veux que ça soit pour tout le monde. Moi, je veux que, même si je suis une petite, moi, je pense aux vieux de maintenant. Je pense aux gens qui n'ont pas de retraite maintenant. C'est important pour moi que tout le monde ait une retraite.
Mon Dieu, une enfant solidaire, gentille et attentive aux autres. Mais elle est mal élevée, elle est pas moderne, cette enfant, Thierry, t'as fait n'importe quoi. Non, mais comment est-ce que tu veux que ça traverse la rue pour monter des start-up, ça ?
Rassure-toi, je pense qu'à la fin, qu'elle trouve un macroniste.
Ah bon ? Connu dans cette manif. Là aussi, une voix que vous avez déjà entendue dans cette émission, celle de Charlie, infirmier en psychiatrie, syndicat Sud Solidaire Santé Sociaux. Salut Charlie.
Salut tout le monde.
T'as la forme ?
Faut bien, hein, c'est à la fois ce qui est bien dans ces journées resserrées, dans une mobilisation qui continue, c'est que c'est souvent et qu'on lâche rien et qu'on est là.
Malgré la pluie, le mauvais temps et les jours qui s'accumulent dans les journées d'action, on lâche rien.
Quelle tronche a là ta fiche de paye ?
Bah en fait j'en sais rien du tout parce que le mouvement il a commencé après que les fiches de paye soient faites au CHU et j'ai pas encore reçu ma fiche de paye du mois de janvier. Tous les jours où je travaille, moi je suis déclaré gréviste donc j'ai une perte de salaire. Dans la fonction publique hospitalière, on n'est pas obligé de poser une journée complète. On peut poser ce qu'on veut en fait, une heure, deux heures, trois heures, on perd au prorata. Bon voilà, on n'est pas des figures sacrificielles donc à avoir des retraits de salaire parce que nous on bloque rien à l'hôpital et puis quand on est en grève, on peut être assigné dans notre service, donc ça va être la surprise à la fin du mois là, voir les dégâts. De toute façon, la motivation, elle est sur le fond. Plus de 40 jours de mobilisation. En face, on a un gouvernement qui se dit déterminé. Bon, on ne constate pas un élargissement fabuleux de la mobilisation. Moi, mon secteur de la santé, ça déborde pas. On aimerait que tous les secteurs soient sur le modèle de la SNCF, des transports et de la RATP. C'est pas le cas, c'est comme ça. Après, je pense que la détermination, elle est vraiment sur le fond parce que la réforme des retraites, on l'a dit et redit, mais c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est le nerf de la guerre de notre système social. Et puis là, en plus, on reprend un coup de pied dans le derrière. Après le scandale de Levoix, après BlackRock, là, c'est l'humiliation de la soi-disant retrait âge pivot qui n'est pas un retrait âge pivot. Les 64 ans, puis 65, puis 66, on va y aller. Le gouvernement veut nous rouler dessus. Procédure accélérée au Parlement. Il parle même d'ordonnance. Donc de toute façon, la motivation, elle est là et elle le restera, oui. Mais bon, c'est bien. Là, il y a vraiment eu des choses au niveau de la solidarité qui se sont passées. Mais on sent des énergies et du plaisir à être ensemble. De ce côté-là, on est en train de construire quelque chose qui est fort, qui est beau. Quoi qu'il arrive, ça ne sera pas perdu. Et pour les prochaines mobilisations, puisqu'il y aura des prochaines mobilisations, là, on est en train, en même temps, de planter des graines qui seront, à mon avis, solides et qui partiront pas comme ça, quoi.
Je trouve qu'il y a une interaction gilet jaune syndicaliste traditionnelle entre guillemets vachement intéressante qui se fait aussi. C'est-à-dire que là on voit des choses qu'on n'aurait pas vues il y a un an. Une fraction des gilets jaunes qui se servent de la voiture haut-parleur de Solidaires pour s'exprimer. Il y a une espèce de porosité. Bon finalement si Macron il n'a pas encore pété la sécu, c'est pas tant qu'il a peur dessus de santé sociaux solidaire, c'est qu'il a peur des gilets jaunes. Et je pense que face à se demander si c'est pas les gilets jaunes qui ont fait en sorte que Macron il va un peu mollo et pour nous détruire la sécurité sociale, plus qu'ils ne le font déjà, je veux dire.
Je veux pas du tout parler pour les gilets jaunes et tout ça, mais ce qui est marrant, c'est ce qu'on se dit dans nos formations syndicales, c'est que c'est dans la mobilisation que se créent des solidarités, qu'on apprend et que la convergence des luttes, elle se fait ça, et pas dans les tactiques de division, de boutique et tout ça. La position de Solidaires a été toujours de soutenir le mouvement des gilets jaunes et d'en faire partie et d'être partie prenante. Et du coup, dans le concret, ce que ça crée des rapprochements parce qu'on est tous des êtres humains, des militants engagés et on se retrouve dans la mobilisation là où naturellement on a eu des affects, on a eu des expériences, là où on a des connaissances. Donc ça fait la démonstration que quand il y a de la solidarité dans les luttes, se crée de la convergence et je pense que ça c'est un beau moment pour ça. Après ta deuxième question c'était la peur de Macron. Moi je pense que bien sûr ils ont eu énormément peur du mouvement des gilets jaunes. Ils ont de la mémoire et ils savent s'en servir pour des mauvaises raisons. Pour améliorer leur technique de division, de comment faire passer un projet de loi pour qu'il puisse s'appliquer avec le moins de résistance possible. Donc ça, de la mémoire, ils en ont. Moi, je le souhaite que du coup, les rapprochements qu'il peut y avoir des différents mouvements, des différents groupes qui luttent, soit dans leur coin, soit dans leur lieu de vie, soit avec leurs questions, que tout ça, ça s'agglomère, que ça se renforce et que ça puisse faire changer les choses.
Parce que finalement, les gilets jaunes, ils n'ont pas les mêmes contraintes que des syndicalistes ou des grévistes. Parce que faire grève, ça se fait pas n'importe comment. En plus, on se fait niquer du salaire, etc. Les gilets jaunes, ils n'ont pas besoin de demander la permission à monsieur le préfet de faire là où on leur dit de faire.
C'est une vraie critique qu'on peut nous faire. Le syndicalisme, ça sert aussi à ça. Ça sert à avoir un rôle de tampon. Bien souvent, je regrette que ça soit un outil du pouvoir pour des fois mettre un peu un coup sur les manifestations, les mobilisations, là où elles pourraient aller trop loin pour le gouvernement, aller vers des choses qui soient révolutionnaires, qui soient vraiment de l'ordre de la déstabilisation du pouvoir. Après, ce qui est intéressant là dans le moment, et tu parlais des convergences, c'est pas pour dire qu'il y a une fusion des mouvements ou de l'absorption des gilets jaunes, chacun est à sa place, mais là les parcours de vie des gens, l'engagement militant fait que c'est plus si clair entre eux. Il y a d'un côté les syndicats, il y a d'un côté les gilets jaunes. Je pense qu'il y a plein de syndicalistes qui ont investi le mouvement des gilets jaunes et qui sont gilets jaunes. Il y a plein de gilets jaunes qui, même s'ils en étaient loin au début du mouvement, du coup maintenant sont rentrés et rentrent dans l'action syndicale, qui reste avant tout un outil d'organisation des travailleurs et des masses pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et pour les droits, quoi.
Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Ça fait un an que je te vois, mais il y a un an, tu étais en jaune fluo. Et aujourd'hui, le jaune fluo, tu l'as conservé, mais tu as aussi le rose fuchsia de Solidaire sur le dos. Des gilets jaunes qui se seraient exprimés dans les haut-parleurs de Sud Solidaire, c'était relativement impensable il y a un an. Et là qu'on voit, il y a une partie de gilets jaunes qui va vers les syndicalistes, quoique les syndicalistes sont déjà aussi allés vers les gilets jaunes. Voilà, il y a un mélange et une rencontre qui se fait ici.
Alors il y a un mélange en effet, mais pas avec n'importe qui. Il y a un mélange avec Solidaire depuis presque 9 mois maintenant, si ce n'est pas 10. C'est les seuls qui nous suivent, même en tant que gilets jaunes purs. Ils sont toujours là avec nous, donc nous on est là avec eux aussi. Et je me suis convertie en rose fluo, comme tu le dis, parce que je suis à ESH. Donc je m'occupe des enfants handicapés scolarisés. Et comme Macron ne fait rien pour ses enfants handicapés, bah, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc je me bats pour ça. Du coup, pour représenter mon métier, qui fait partie des métiers précaires, j'ai décidé justement de me syndicaliser. Et je pars bientôt pour Paris, justement, pour représenter tout le métier d'ESH.
Et donc tu arrives à porter les deux en même temps, le gilet jaune fluo et celui de Solidaire.
Alors le gilet jaune, je ne l'enlèverai jamais, car c'est un tout en fait, il n'y a pas que la retraite avec les jaunes. On a les augmentations qui nous arrivent sur le coin de la rue, on a les impôts, on a ces députés qui touchent des primes à gogo, et alors que beaucoup sont dans la rue, il y a des SDF, il y a des gens dans la misère et on s'en fout. Donc nous on est là et on continuera de se battre. On est beaucoup de gilets jaunes à être syndicalisés, mine de rien. Nous, on le voit dans le nombre de manifs gilets jaunes, en fait, quand on est derrière le cortège de la voiture Solidaire, il y a de moins en moins de jaunes qui portent le jaune.
En discutant beaucoup avec les gens, et notamment avec des syndicalistes, parfois hors micro, ils disent « Ouais, mais nous, les syndicalistes, on est bien gentils de manifester dans les clous et de faire où le préfet nous dit de faire. » Et quelque part, si Macron et ses sbires n'ont pas encore défoncé la sécu, c'est aux gilets jaunes qu'on le doit.
On le doit aux gilets jaunes, et les gilets jaunes, justement, en rentrant un petit peu dans les syndicats, on essaye de faire évoluer le syndicalisme. En s'intégrant petit à petit, on voit bien quand même que les idées des syndicalistes changent de plus en plus. Elles se rapprochent de nous, même si pour l'instant, ils n'osent pas encore bouger.
Des cultures qui s'échangent, ben on n'est pas dans le même pays qu'il y a un an. Je trouve ça a vachement bougé dans les têtes.
Sur le terrain, ça ne bouge pas encore. Depuis le temps qu'on réclame la convergence des luttes, on fait tout pour. Maintenant, la grande question que nous, on se pose en tant que gilets jaunes, si on perd et que ça s'arrête, est-ce que les syndicats vont continuer à nous suivre, nous, gilets jaunes, tous les samedis dans la rue? Parce que nous, même si la question de la réforme des retraites s'arrête, on sera toujours là, on va continuer, on lâche rien. Je suis en lutte depuis le 24 novembre 2018. Et là, la grève en tant que gréviste, je fais la grève depuis le 5 décembre 2019.
Voilà. Et quelle tronche elle a, ta fiche de paye?
Bah écoute, je vais te dire ça le mois prochain, parce que nous, on a 2 mois de carence dans l'éducation nationale. Donc là, avant le 17 janvier, on doit justement déclarer nos grèves. Et normalement, ma fiche de paye, elle est à zéro. Tu vois, moi, je perds un salaire, mais je vais continuer d'être là, je serai toujours là, parce que je me dis que je préfère perdre 1 mois ou 2 mois de salaire, et puis que ça change les choses pour le futur et le futur de nos enfants, là, que de me dire, ah ben non, je ne vais pas perdre 35 € ou 50 € ou 70 € pour venir à une manif, de toute façon, on va la perdre, ou alors si les autres la gagnent, ben, au moins, moi, j'aurais rien perdu. Non, non. Moi, je m'en fous de perdre 2 mois maintenant. Ce que je veux, c'est pas perdre 1 000 € sur ma retraite plus tard et que mes enfants puissent en bénéficier. C'est pour ça que je suis là.
Salut, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Sylvain.
Et toi, c'est sax ?
Saxophone ténor, exactement.
Cette formation-là, c'est des gens qui se connaissent, qui jouent déjà ensemble ?
En fait, il y a à la fois le socle de Sagdaet, qui est une fanfare Second Line, Nouvelle-Orléans, d'ici, de Tours. Et plein de copains nous ont rejoints, juste venus à titre de musicien, pour pouvoir partager ce moment quoi, de lutte et de soutien et de cohésion quoi, et de rassemblement. Quoi.
Super, merci à vous en tout cas d'avoir mis du baume au cœur des manifestants aujourd'hui. C'est juste pas la même quand vous êtes là. Quoi.
Oui, c'est sûr que ça fait du lien, ça permet de rassembler un peu plus facilement. Le Second Line est né originairement pour ça, en fait. Il ne faut pas oublier que c'était le moyen en fait, des esclaves du 18e siècle, 19e siècle, en fait, de se retrouver et de pouvoir commencer à gagner un peu de liberté en faisant des cortèges, montrer un peu ce qu'ils savaient faire, vendre quelques produits, gagner un peu de thunes et déjà commencer à être un peu libre par rapport au champ de coton là où ils bossaient. Donc le Second Line, ça a une vraie origine sociale, de lutte et d'existence. Et voilà. Les morceaux qu'on a joués en fait étaient à la fois des morceaux de cette tradition-là, donc des vieux morceaux purs et durs dans cette tradition, et d'autres qui étaient un peu plus récents. Mais en fait, le Second Line continue aussi à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, tous les dimanches, des grands cortèges comme ça en fait de gens qui se retrouvent pour pouvoir être ensemble, vivre, célébrer s'il y a quelqu'un qui est parti. C'est un vrai sens social, collectif.
Une musique de lutte joyeuse.
Ça peut être d'autres sentiments aussi, s'il y a besoin d'exprimer d'autres sentiments. La fanfare pour pouvoir exprimer les sentiments que le peuple a besoin d'exprimer, quoi.
Ouais, puis c'est bien, ça exprime aussi une puissance, hein, ça exprime aussi, on est joyeux, on marche dans les rues, mais venez pas trop nous chercher quand même, parce qu'on en voit, quoi.
En fait, peut-être le sentiment de puissance qui se dégage, c'est qu'on est obligé d'être nombreux pour avoir du gros son. Et voir tous ces instruments rassemblés, toutes ces grosses caisses, les soubas, les trombones, etc. Une sorte d'armée qui n'a pas d'armes à feu, qui joue qu'avec ses tripes et qu'avec sa tête et son cœur, quoi.
Donc... on peut faire autre chose que des fusils et des balles avec du métal.
Exactement, pourtant c'est le même métal que celui qui sert à faire des balles.
Vous avez un langage commun qui est des standards. Après, à chacun, s'il veut, de faire son chorus.
Ouais, c'est ça, il y a une sorte de langage commun, donc ce que tu dis, les standards. Et une fois que ce thème a été joué, en fait, il laisse une empreinte de structure et qu'on l'utilise pour pouvoir improviser, pour pouvoir faire des solos. Donc du coup, la structure, elle se répète. On en profite pour pouvoir faire passer plein de solos, solo de sax, solo de trombone, solo de percu, etc.
Oui, j'avais jamais entendu de chorus de djembé.
Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Bah, ouais. Bah, c'est des racines communes, tout ça. Cette empreinte qu'a laissé le thème, bah, en fait, ça nous donne une structure. En fait, c'est des codes qui sont assez unanimement connus entre musiciens. Donc ce qui fait qu'on peut réussir à se retrouver et à jouer ensemble sans forcément se connaître. Sans forcément avoir répété, et pourtant avoir une cohésion.
C'est là que tu dis que la house music n'a pas inventé grand-chose, hein, parce qu'il y a quand même ce même côté hypnotique de trance, quoi. Hein,
Ouais, bah après la house, elle a développé son truc avec les textures et les propres machines qu'elles utilisent, et puis même les rythmes. Mais oui, c'est basé sur des phénomènes qui sont ancestraux. Effectivement, la trance, je pense qu'on connaît ça depuis qu'on est des humains, quoi. Enfin voilà, c'est vieux, quoi. C'est vieux.
Je disais à un de tes collègues, là, ça fait super plaisir de voir les artistes dans la rue, parce que j'ai l'impression qu'on les a pas vus tant que ça. Enfin, moi, la dernière fois que j'ai vu les intermittents un peu en masse, c'était en 2003, ça commence à remonter un peu. Ouais. Par exemple, pour toi, là, qu'est-ce qui t'a donné l'aiguillon pour aller arpenter le pavé, qui plus est avec ton instrument ?
Bah, en fait, c'est surtout le sentiment de raccrocher les wagons de ceux qui luttent depuis plus longtemps que nous. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont en lutte depuis plus d'un mois, un mois et demi, et qui du coup prennent des gros risques. En fait, il y a un côté où, au bout d'un moment, on se sent responsable. On est quand même dans des régimes aussi particuliers. On peut atteindre la retraite, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens qui se mettent en retraite. On ne cherche pas à savoir si nous, on va avoir des retraites ou pas des retraites. C'est juste, il y a des gens qui ont besoin d'aide et de soutien pour pouvoir protéger le système de retraite, le système social qui a été défendu déjà depuis des années. Et donc voilà, on y va. Donc c'est ça, en fait, le sens, nous, je pense, c'est de rejoindre en fait le rang de ceux qui sont en lutte depuis bien plus longtemps que nous.
Merci à vous, ça me réconcilie un peu avec les intermittents du spectacle contre lesquels je récriminais un peu depuis quelques années en disant ouais putain, à part vos 43 cachets de merde, il n'y a pas grand chose qui vous intéresse. Et là vous m'avez réconcilié un petit peu avec la communauté artistique, donc merci.
Bah avec plaisir vraiment.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette Radio Manif que vous pouvez réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr